Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Mon enquête de généalogie, Le mystère du poilu, de Marie-Odile Merniac, publié en 2018 chez Rajo. L'auteur, Marie-Odile Merniac, est une généalogiste passionnée. Elle a créé, entre autres, une encyclopédie en fascicule intitulée Généalogie facile chez Hachette, des guides de généalogie chez Autrement, et elle a écrit de nombreux livres sur les prénoms, les noms de famille, l'histoire de la vie quotidienne. Elle a même créé une chaîne YouTube Généalogie, Archives et Culture, à la fois pleine d'humour et d'informations passionnantes. Elle est donc également à la tête de la collection Mon enquête de généalogie chez Rajo, collection qui comporte déjà deux titres, Nos ancêtres venus d'ailleurs et Le secret du soldat allemand. Le roman qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Le mystère du poilu. La maîtresse propose à toute la classe de s'intéresser au monument aux morts pour préparer le 11 novembre. Mais cette année, elle déclenche l'enthousiasme des élèves en leur proposant de mener une véritable enquête. Chaque binôme d'élèves va choisir un soldat mort pour la France et retracer son histoire en s'aidant du site Mémoire des hommes. Léa choisit de travailler sur son grand-père, Ernest Mercier, avec l'aide de Gabriel, qui est très doué pour les illustrations. Elle pensait que ça serait simple, puisque ce soldat est de sa famille. La recherche commence de façon classique, et on découvre au passage, et naturellement, plein d'informations sur la guerre. Puis, Léa et Gabriel tombent de façon inattendue sur ce qui pourrait bien être un vrai secret de famille. Et les voilà qui nous embarquent dans une belle enquête menée de façon très vraisemblable entre mémoire des anciens et aide d'Internet. Gabriel, une surprise de 1894. À la mairie, nous n'avons trouvé ni souris, ni poussière sur les registres, même vieux d'un siècle. Et l'archiviste était toute jeune et très souriante. J'imaginais une vieille dame à lunettes, a dit Arthur, avec des toiles d'araignée dans les cheveux comme dans les films. Oh, je suis déçu. Il faut dire qu'Arthur est fan de Sherlock Holmes et de romans policiers. Il était même venu avec une grosse loupe pour faire le malin, car personne n'en avait besoin. L'archiviste s'est approchée. Prévenue par l'école, elle avait déjà sorti sur des tables les registres qu'il nous fallait. Ils étaient énormes, reliés en cuir avec de grosses pages très épaisses. Elle nous a pris par petits groupes pour nous aider à chercher les actes de naissance de nos poilus. Dès qu'ils étaient trouvés, nous les recopions et la maîtresse les photographiait avec son téléphone portable. Manon avait apporté un appareil photo numérique. Elle a eu le droit de l'utiliser, mais sans flash. Il paraît que l'excès de lumière abîme le papier et efface les encres. Les parents d'Aristide Anatole étaient chapeliers, se sont exclamés Arthur et Hugo, qui venaient de trouver leur pou de vigne. C'est quoi, chapelier, un constructeur de chapelle? « Non, un fabricant de chapeaux », a précisé la maîtresse. « Tout le monde portait des chapeaux à cette époque, les hommes comme les femmes. »« Oh, si les parents pou de vigne revenaient aujourd'hui, ils seraient au chômage. Plus personne n'en porte. » »« Les parents de notre soldat étaient agriculteurs », ont signalé Clara et Chloé. « Les nôtres vignerons », a indiqué Manon. J'ai montré à Léa un gros registre. « Année 1894, c'est le nôtre !» On a tourné les pages avec précaution. « Et voilà !» Au 18 janvier 1894 figurait l'acte de naissance d'Ernest Mercier, écrit très lisiblement à l'encre violette. Pendant que Léa le recopiait soigneusement sur sa feuille, je lisais les autres actes figurant sur la page. Et ce que j'y ai vu m'a figé sur place. Sans relever la tête, parce qu'elle était toujours en train de noter, Léa m'a demandé d'appeler la maîtresse pour qu'elle vienne photographier. Mais je n'ai pas bougé. Les yeux écarquillés, je lisais et je relisais le registre. J'essayais de comprendre. Léa a fini par me donner un coup de coude. Aïe ! Mais je fixais toujours la page. Tu as vu ? Ils sont deux. Ben, j'ai vu quoi ? L'acte de naissance d'Ernest est bien là. Regarde au-dessus. Et je lui ai désigné l'acte d'un Pierre Mercier, né le même jour, des mêmes parents. Bref, le frère jumeau d'Ernest. Incroyable, s'est exclamée Léa. Papa ne me l'a jamais dit. Elle a appelé la maîtresse, elle était toute excitée. J'ai peut-être plein de cousins inconnus. La maîtresse l'a écoutée, a lu tout attentivement, puis a balayé du doigt les marges des actes de naissance. Tu vois, les marges des actes indiquent toujours ce que les bébés sont devenus. Dans la marge de celui d'Ernest, l'officier d'état civil a écrit « Mort pour la France le 28 octobre 1918 ». Dans la marge de l'acte suivant, on lit que la personne s'est mariée en 1921 et qu'elle est décédée en 1957. Mais pour ce jumeau, Pierre Mercier, rien n'est inscrit. C'est vrai, la marge était totalement vide. Comme si ce bébé Pierre avait disparu de la terre, non seulement effacé de la mémoire de la famille, mais aussi des documents officiels. L'archiviste qui avait suivi notre conversation a cherché dans les autres registres de la commune, mais elle n'y a trouvé ni mariage, ni décès. « Tu interrogeras tes parents ce soir, » a dit la maîtresse à Léa, dont elle sentait l'impatience. « Et comme nous sommes vendredi, tu auras tout week-end pour explorer les papiers de famille. Tu nous raconteras lundi le résultat de ton enquête. » Donc pas de recherche aventureuse, pas de planque façon détective, mais un vrai travail de généalogiste, tout à fait du niveau des enfants, et qui va probablement en motiver plus d'un à faire des recherches autour de sa famille. L'auteur donne envie aux enfants de se pencher sur la généalogie tout en distillant des informations sur la Première Guerre mondiale. Elle parle par exemple du problème des casques des soldats qui étaient totalement inadaptés au début à cette guerre qui utilisait des armes nouvelles. Les casques ne protégeaient pas des tirs. Ou encore des uniformes beaucoup trop voyants qui faisaient des soldats de véritables cibles. Rien de trop didactique. On suit réellement une histoire raconté à deux voix par Léa et Gabriel, deux élèves de CM2. À la fin, on trouve un arbre généalogique de la famille de Léa et une double page précisant les sites d'aide à la recherche pour cette période. Ce roman a fait partie de la sélection du prix des Incos en CM2 6e pour l'année 2020-2021.
Cotton Blues, aux éditions Bill Bocquet, Régine Joséphine, signe un texte illustré par Aurélie Gouel. Parce que ce grand et magnifique album traite d'un sujet grave, on le proposera plutôt aux enfants de plus de 8 ans. Mais la beauté des illustrations et la finesse de l'écriture confèrent à ce que l'éditeur a choisi d'appeler un conte une aura très particulière. Nous sommes probablement dans le sud des États-Unis, au temps de l'esclavage. La petite Cotton travaille dur pour son maître dans la plantation de coton. Cotton, c'est aussi le nom qu'il a donné à sa petite esclave dont on ne connaît rien, ni la voix, ni l'âge. Elle se tait, Cotton. Elle travaille en silence. Les autres chantent des airs qui tordent le ventre et pleurent d'épuisement. Elle ne chante pas, Cotton. Cette musique n'est pas pour elle. Elle ne pense qu'à la nuit, Cotton, car la nuit est en elle. Dès que la nuit tombe, que le travail est terminé et que la soupe est avalée, elle va s'asseoir dans l'ombre, à l'écart des feux autour desquels fredonnent les esclaves. Et là, la nuit efface toutes les couleurs. Tout devient comme elle. La maison du maître, le ciel, le coton lui-même s'imprègne d'obscurité. Là, enfin, peut naître son rêve. L'autrice choisit d'évoquer plutôt que de raconter le quotidien de la petite fille qui se réfugie le plus souvent dans ses rêves. Ses rêves d'un pays perdu, dont l'illustratrice Aurélie Gouel propose une vision magnifiée par une palette de nuances subtiles faisant la part belle aux couleurs chaudes de la terre d'Afrique. C'est Kunta qui lui a appris. Kunta, le vieil Africain de l'autre plantation, celui qui venait de plus loin que la mer. Dans son pays de couleurs, le blanc désigne un monde étrange. Et au-delà de ce monde, il existe tant de mystères. D'abord, fermer les yeux, se laisser remplir par cette chaleur, cette musique venue du vieux pays. Dans l'obscurité, Cotton cherche la mémoire de Kunta pour sentir comme le vent courait sur la savane, comme l'odeur sauvage des bêtes coulait dans les veines. Enfin, elle s'endort, les yeux ouverts, avec dans la tête le refrain des koras. Le blanc dur des fleurs de coton répond à la lumière qui aveugle dans le champ au soleil et aussi à l'éclat du fouet qui cingle. L'autrice parle avec une certaine douceur de cette réalité si dure, de sorte que le ton frappe plus encore qu'une violente dénonciation. De même, la petite esclave échappe à bien des tourments en se réfugiant dans ses rêves quand la nuit vient. Les rêves de liberté de la petite Cotton tournoient dans des pages colorées d'ocre et de brun doré où défilent les paroles de la chanson-titre. Pour exprimer la souffrance des esclaves courbés dans les champs, Aurélie Gouel les voile de gris. Mais Cotton rêve. Son corps entier rêve et se déploie dans les pages où plonge son regard à la recherche de l'oiseau géant aux ailes magiques, le Calao, l'oiseau mère. Enfin l'emporte l'oiseau géant au-delà de l'océan. Elle vole Cotton avec le Calao. La mer est sous elle, le ciel tient dans sa tête. Elle sent le vent sur ses plumes et voit le monde par ses yeux. Elle vole Cotton, elle est le Calao. Ainsi disparaît-elle, à la fois de la plantation et de la région où l'on vainement cherchait les chasseurs d'esclaves, et de l'histoire elle-même dont il reste une chanson, qui dit que Cotton chante désormais au son des koras. Son rêve serait-il devenu réalité ? Cette chanson qui figure à la fin de l'album a été mise en musique par Thomas Sidibé dans un coffret album avec CD.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog. wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.